du 14 au 24 juillet sur les ondes de l'Écho des Planches, la radio du Festival d'Avignon. L'Écho Hugo, deuxième des actions déployées dans le cadre du programme Vecteur Hugo 2017. Cette émission vous reçoit 5 sur 5 pour mieux vous ouvrir les voies du possible. Vous avez votre mot à dire ? Contactez directement le 06 60 88 53 05. Et voyons-nous au rayon frais du grand supermarché du Festival d'Avignon. L'Écho des Planches, tous les jours, avec l'Écho Hugo. Mademoiselle, vous permettez que je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, en fait, parce que, étant porteur du micro, j'aurais trouvé intéressant de m'adresser à quelqu'un qui a l'œil, puisque je vous suis depuis tout à l'heure sur ce long fleuve d'intranquillité que nous suivons, mais en toute quiétude. Je vous vois mener l'œil de votre objectif. Que voyez-vous dans cet objectif ?
Est-ce que ce sont des choses qui se disent ? Je ne sais pas. Je vois beaucoup de pourquoi, beaucoup de pas, beaucoup de chaises, beaucoup de gens seuls, finalement. Ils sont là, mais ils interagissent assez peu, je trouve. Ils sont forts sur... Non, mais il y a des choses qui se passent, malgré tout. Des petits miracles.
Mais personnellement, je trouve que ce flux de chaises en 2000 chaises a quand même le mérite d'une manière extrêmement pacifique et agréable de poser la question du temps. J'entends des gens qui se demandent quel est le sens. Et alors qu'il n'y a juste de sens que le sens de la direction des chaises, et encore, mais le sens qu'apporte ce mouvement est surtout celui de la présence, je crois, et de l'accueil, non ? Voilà.
Être là, simplement. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir été dans une caverne là depuis un mois. Donc ça me fait du bien d'être dans la rue, d'être parmi vous, parmi nous, parmi eux. Et je prends ma chaise.
Ah oui.
Et je continue.
Mais dans quelle caverne étiez-vous ? Dans quelle caverne étiez-vous ?
La caverne de mon travail, de mes enfants, de ma vie de famille. Voilà, beaucoup de contraintes. Et en fait, d'être là juste dans la rue, ça fait du bien. Parce qu'il y a plein de petites... je me ressens vivante.
Alors, ça, je crois que ça pourrait être la devise de tout mouvement. Mmh. Se sentir et se ressentir vivant. Voilà, chers auditeurs, nous retrouvons avec une femme transmetteuse. Oui. Non pas une... comment dit-on déjà ? J'en oublie, la chaleur me fait tout oublier. Mais justement, puisque nous sommes en pleine amnésie, puisque force est de constater que l'amnésie devient presque une politique, finalement, dans ce grand massacre de la pensée humaine, je dis bien, la pensée n'étant faite que pour l'humain, que pour le progrès humain, eh bien, justement, nous sommes allés à la rencontre fortuite, mais fort intéressante au sens d'une fenêtre à ouvrir, car comme le disait Victor Hugo, tout assainissement commence par une large ouverture des fenêtres, ouvrons les intelligences toutes grandes. Anne-Marie Autissier, vous êtes, en termes d'intitulé officiel, agrégé de lettres modernes, vous êtes sociologue, la terminologie de votre...
Sociologue de la culture.
Où en est-on, Anne-Marie Autissier, dans cette nécessité urgente d'ouvrir les intelligences ?
C'est une question à la fois intéressante et difficile. Je pense que dans cette nécessité d'ouvrir les intelligences, nous sommes dans une situation de tension extrême aujourd'hui. Et je pense que les années d'après-guerre, alors je parle toujours d'un point de vue européen parce que moi je suis quand même une spécialiste des politiques culturelles en Europe, je pense que les années d'après-guerre nous avaient appris justement une forme d'ouverture. Une forme d'ouverture et de dialogue. Et même avec tous leurs échecs et toutes leurs difficultés, les politiques culturelles nationales de la culture en Europe, dans différents pays européens, étaient relativement proches au fond. On voulait trouver un statut spécifique pour l'artiste et l'intermittence est une réponse, mais c'est pas la seule en Europe. On voulait fabriquer des espaces dans lesquels l'artiste puisse être à la fois protégé et libre, et censément fédérateur d'une communauté inattendue, puisque au fond, l'œuvre, comme l'ont dit certains sociologues, l'œuvre fédère une communauté inattendue. Donc on était dans ces promesses-là, et puis là-dessus est passée la crise financière devenue économique de 2008, là-dessus sont passées les politiques de dérégulation, enfin là-dessus sont passées beaucoup de choses, et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde, j'ai envie de dire dans une Europe d'abord, qui est confrontée aux montées des replis identitaires qu'on peut expliquer par différents facteurs, puisque l'Union européenne en tout cas n'a pas été protectrice vis-à-vis des peuples européens, replis xénophobes, tentative d'instrumentalisation politique de la culture. On est dans ce paradigme-là, enfin on est dans cette séquence-là. Et j'ajoute le terrorisme, bien sûr. Et donc, du coup, on est face à une grosse difficulté, c'est-à-dire on a beaucoup de travail, il faut à la fois récupérer les fondamentaux, c'est-à-dire dire qu'il y a un humanisme qu'il faut réincarner, reconcrétiser, faire revivre à travers les politiques nationales et bien sûr les stratégies de l'Union européenne. Et on est aussi dans une situation où il faut offrir des alternatives concrètes. Parce que ce qui me frappe beaucoup sur les politiques culturelles depuis toutes ces années, c'est la multiplication et l'empilement des référentiels. On a eu tout. On a eu la démocratisation culturelle, la démocratie culturelle. On a eu les industries créatives. On a eu beaucoup de référentiels qui sont éminemment des référentiels contradictoires, d'ailleurs, entre eux. Et aujourd'hui, on parle des droits culturels comme un nouveau référentiel. Mais comme le disait quelqu'un dans un débat hier, il n'y aura pas de refondation si on n'associe pas les droits culturels avec l'éducation populaire qu'on a beaucoup, beaucoup oublié malheureusement dans ce pays. Donc, il faut refaire la trame, il faut recomposer la trame à la fois au niveau national, local et au niveau européen. Et c'est ça le prochain chantier qui nous attend. Donc, je pense que dans ce chantier-là, moi, je suis pas optimiste, mais disons, je suis résolument prudente. J'ai envie de vous dire, il y aura des choses qui seront faites et il y aura des choses qui sont faites à tous les niveaux. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des élus qui sont très intéressants. Il y a des associations qui sont très intéressantes. Il y a des réseaux culturels européens qui font un super job. Il y a des gens dans la Commission européenne même qui sont très sensibilisés à ces questions. Et il y a des parlementaires européens qui sont aussi en mesure, probablement, de proposer autre chose. Mais il y a aussi les États européens qui proposent une politique ou des politiques et qui n'ont pas toujours le logiciel adapté, si j'ose dire. Donc, ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup d'interlocuteurs, ça fait beaucoup d'acteurs. Moi, ce que je vois au niveau français et européen, c'est qu'il va falloir mettre autour de la table tous ces acteurs, parce qu'ils ont tous leur importance. Qu'on parle du monde associatif, qu'on parle de l'économie sociale et solidaire, pour moi c'est important, qu'on parle du monde de l'éducation populaire, qu'on parle des politiques à tous les niveaux, et qu'on parle évidemment des interlocuteurs au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen. Donc il faut remettre tous ces acteurs autour de la table, mais les remettre autour de la table, c'est pas suffisant, il faut un projet. Il faut qu'il y ait un projet qui se dessine. Et le problème de l'Union européenne ces dernières années, c'est qu'elle a empilé les programmes. Elle a empilé les programmes dans une perspective qui était quand même, il faut le dire, néolibérale. Et elle n'a pas proposé des politiques. Donc là, on est au pied du mur. Il faut une réorientation des politiques.
Anne-Marie Autissier, ce que vous nous livrez est une voie ouverte sur un possible. Victor Hugo définissait le poète comme étant la voie du possible. Le possible étant engagé et envisagé comme une découverte permanente. Le seul problème, c'est que la question du poète, aujourd'hui, quand je dis le poète, c'est au sens plein du terme, à la fois de l'artiste, du penseur, mais de l'ouvrier œuvrant, dans l'invention d'un outil au service d'un bien commun. Aujourd'hui, il y a quand même une faille absolument terrifiante qui est celle de la promotion, qui est où la notion du spectacle et le carnage de la mort entretenu par le média, les médias de ce qu'on appelle de masse, nous pose la question de la volonté de l'ignorance. Vous nous avez parlé tout à l'heure hors antenne. Comment aujourd'hui trouver un trait d'union vivant, actif, pour mettre en jeu et en confrontation positive cette volonté de l'ignorance avec cette urgence du possible?
Oui, la volonté de l'ignorance, c'est le résultat d'un certain nombre de dérives qui se sont produites dans la société. Et évidemment, les médias. Enfin, je ne veux pas condamner les médias en général, je dirais certains médias, pas tous, y ont contribué. Il faudrait recréer du désir. Je pense que quand il y a blocage, quand il y a volonté d'ignorance, je pense aussi aux travaux de Bernard Stiegler sur la question, c'est-à-dire quand on est dans une forme de nihilisme, hein, quel qu'il soit, eh bien, on est dans une forme de nihilisme parce que toutes les capacités désirantes ont été, en quelque sorte, exploitées et vidées. Donc il n'y a plus de désir. Donc il faut recréer du désir. Alors c'est un programme un peu ambitieux et pas facile à décliner comme ça. Mais je crois que recréer du désir, on a les relais. On les a. Et dans une société comme la France, je voyage pas mal, je suis frappée de la comparaison de la France avec d'autres pays. Je veux dire, on a des rouages, on a des éducateurs sociaux, on a des enseignants, on a des artistes, on a des producteurs culturels qui sont très au fait de ces questions. Pas tous, mais un certain nombre sont très au fait de ces questions. Et un certain nombre, justement, ont très envie de sortir de l'entre-nous. Donc, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la France, dans ce territoire, il y a beaucoup de personnes qui ont cette capacité-là et cette envie-là. Alors après, bien sûr, il faut les accompagner, il faut les appuyer. C'est la responsabilité des politiques publiques, qu'elles soient au niveau local, régional, national, voire européen, bien sûr, c'est la responsabilité des politiques publiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie capacité d'initiative de toutes ces personnes à partir du moment où elles sont déterminées. Et je crois que c'est peut-être un peu difficile de recréer le désir, mais c'est possible et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
Anne-Marie Autissier, vous venez de l'apprendre, Victor Hugo sera présent en 2017 avec un programme intitulé Victor Hugo 2017. Vous sentiriez-vous capable de voter pour Victor Hugo ?
Écoutez, je me souviens que Victor Hugo devait être le premier président des États-Unis d'Europe et qu'il avait, proposé évidemment que Paris soit la capitale de l'Europe, bien sûr. Donc, j'admire l'œuvre et j'admire certaines prises de position du personnage dans des conditions historiques particulières, quoique je n'ai pas révisé ça récemment, mais je sais. J'admire moins l'homme privé, je dois vous le dire quand même. Mais bon, c'est une autre époque, c'est le 19e siècle, donc on n'allait pas s'encombrer en plus de féminisme et d'attention exagérée aux enfants. Donc, en tout cas, oui, sur la personne publique de Victor Hugo, bien sûr, je trouve que c'est une voix toujours intéressante et qui a toujours des résonances aujourd'hui.
Bon, alors, sur la question de la personne privée, rassurez-vous, il a beaucoup changé. Hein. Non, mais parce qu'il a disparu des écrans pendant un certain temps. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'écran. Il n'y avait même pas Wikipédia. Il faisait le boulot de Wikipédia. Il faut juste le rappeler. Il n'y avait pas de télévision. Mais bon, la question, c'est vrai qu'il s'est projeté hors du cercle privé sur la question du droit des enfants, du droit des femmes, c'est toute l'ambiguïté, oui, mais c'est bon, qui est contradictoire à sa vie privée, certes. Bon, voilà, mais il s'en excuse, il nous a envoyé un mail, comme je vous le disais, il y a 6 mois, il s'excuse de beaucoup de choses, mais là, il ne peut pas faire autrement, il revient, parce qu'il y a une fâcheuse tendance à nous remettre au 19e siècle aujourd'hui, donc il s'est dit, il est temps que je revienne, j'en profite, et je remets tout le monde au 21e, voilà, ça s'est passé comme ça, mais il revient avec un virus, parce que nous sommes tous atteints de virus pas très sympathiques aujourd'hui. Mais lui, il a décidé de remettre sur la table un virus, mais un virus humaniste, le virus VH17. Donc. Et bien, vous en êtes atteinte, Anne-Marie Autissier. Voilà. Vous en êtes atteinte et parce que vous êtes sensible et que c'est tout n'est pas que dans les cibles à atteindre, mais c'est bien ce dont vous parliez tout à l'heure, le sensible qui amène au désir incarné. Merci à vous, Anne-Marie Autissier. Merci à vous. Rappelez-nous le nom de votre dernier ouvrage.
Alors, mon dernier ouvrage s'appelle « L'Europe culturelle, un couple à réinventer, point d'interrogation ». Et il y a un sous-titre « Essai sur 50 ans de coopération culturelle européenne ». C'est paru aux éditions de La Tribu.
Merci à vous. Alors, on se retrouve tout de suite parce que il y a quand même quelque chose. Tout à l'heure, il y avait quelque chose qui clochait. Maintenant, il y a quelque chose qui est louche, qui me regarde. Je tiens à vous dire, puisque vous ne voyez rien, vous qui êtes dans Louis. Louis Chaise, d'ailleurs, non plus, n'y voyait que dalle. Mais là, je tiens à vous dire que je suis observé par une caméra. Est-ce une caméra de surveillance ? Monsieur Guillaume, je crois que c'est Guillaume le conquérant de l'image. Vous êtes, vous, debout. Je ne vous vois jamais assis. Vous êtes debout. Donc, dans votre œil, est-ce que vous pouvez faire parler votre œil à l'instant même, uniquement pour nos auditeurs ?
Effectivement, je suis l'œil de la chaise. Donc, je ne lâche rien. J'observe tout. Pourquoi exactement ? Pour l'instant, je ne le sais pas. Donc, ça nous ramène effectivement à pourquoi pas. Un monde des possibles, un monde ouvert.
Ouvert comme votre œil, c'est ça. Bon, merci de nous filmer à l'œil et le chemin continue bien au-delà. C'était l'écho Hugo sur l'écho des planches, tous les jours à 17h jusqu'au 24 juillet, dans le cadre du programme Vecteur Hugo 2017. D'ici là, n'oubliez pas, aimer, c'est agir.